Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à lire les textes de la prédication. Nous allons lire le premier texte dans le livre du prophète Nahum, au chapitre 1, des versets 1 à 7. Menace sur Ninive. Livre de la vision de Nahum, l'Elkoshite. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse certes pas impuni. L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon, dans la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel dépérissent. La fleur du Liban dépérit. Il fait trembler les montagnes et les collines vacillent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand contre les comme le feu. Il brise les rochers. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Ensuite, au chapitre 3, des versets 1 à 4. Malheur à la ville sanguinaire, remplie de mensonges, pleine de violence. Les proies ne lui font pas défaut. Bruit du fouet et bruit fracassant des roues. Les chevaux galopent, les chars bondissent. Assaut de la cavalerie, flamboiement d'épées, éclat de lance, une multitude de blessés, une masse de cadavres, des morts à l'infini. On trébuche sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine de grâce, maîtresse en sortilège. Elle qui vendait des nations par ses prostitutions et des tribus par ses sortilèges. Et des versets 16 à 19, toujours dans le chapitre 3. Tu as multiplié tes commerçants plus que les étoiles du ciel. Le grillon ouvre les ailes et s'envole. Tes gardes sont comme les sauterelles, tes employés comme une nuée de criquets qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil se lève, ils s'envolent, et l'on ne reconnaît plus le lieu où ils étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes demeurent immobiles. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. Il n'y a point de soulagement à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Sur qui ta méchanceté ne passait-elle pas sans trêve? Ensuite, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 30 et 31. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore le Seigneur jugera son peuple. » Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ensuite, Hébreux 12, des versets 25 à 29. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et pour conclure, le psaume 62, les versets 8 et 9. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Jusqu'ici, la lecture de la parole pour la prédication.
Avez-vous déjà remarqué que sur les ambulances, le mot ambulance est écrit à l'envers sur les capots? En fait, c'est pour que nous puissions le voir à l'endroit en regardant dans le rétroviseur. Eh bien, le Saint-Esprit agit pour la parole de la même manière que ce miroir qui nous permet de voir et de lire à l'endroit. Nous avons besoin de cette œuvre de l'Esprit ce matin pour ne pas comprendre Nahum à l'envers. Eh bien, que l'Esprit de Dieu nous guide ce matin, nous avons besoin de son œuvre encore aujourd'hui, afin que Dieu nous enseigne par sa révélation. Nous sommes dans une série sur les 12 petits prophètes, enfin qu'on appelle petits, les 12 prophètes dans l'Ancien Testament. Et lors de l'introduction à cette série, nous avons parlé du jour de l'Éternel. C'est quelque chose de récurrent qu'on retrouve dans tous ces petits prophètes. Et j'aimerais vous rappeler la définition que nous avions vue. La voici. Le jour de l'Éternel est une expression utilisée dans la Bible pour décrire comment Dieu est à l'œuvre dans l'histoire pour juger ceux qui font le mal, pour libérer les fidèles de l'oppression et pour appliquer sa loi à la création. Le jour de l'Éternel contient ces trois éléments, le jugement du mal, la libération des fidèles et l'application de sa loi. Et nous avons vu que la raison du jour de l'Éternel, pourquoi il existe en fait, vous vous souvenez? C'est le mal. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de jour de l'Éternel. Et nous avons réfléchi aux différents prototypes du jugement que Dieu a déjà effectué en parlant des trois premiers. Le premier, c'était le déluge, premier prototype de ce jour de l'Éternel. Deuxièmement, nous avons parlé de la confusion des langues et ensuite de la plaie d'Égypte. Et nous avons constaté que ce jugement n'épargne pas le peuple d'Israël lorsqu'il est infidèle. Et tous ceux qui entendaient Nahum savaient que le royaume du Nord avait été détruit par le jugement de Dieu. Et ce jugement avait été exécuté par l'Assyrie, dont la capitale était Ninive. L'Assyrie est le premier grand empire présenté dans la Bible. Et cet empire était sanguinaire et absolument cruel. L'Assyrie est le premier grand empire présenté dans la Bible et cet empire était sanguinaire et absolument cruel. Plus cruel d'ailleurs que les groupements terroristes qui agissent actuellement dans le monde et qui ne sont pourtant pas tendres. Si Dieu avait envoyé Jonas contre son gré, vous vous souvenez, hein, Jonas il voulait pas aller à Ninive, hein, si Dieu l'avait envoyé contre son gré dans la capitale assyrienne environ 100 ans avant, avec le résultat totalement étonnant que nous avons vu ensemble, Nahum écrit maintenant sa vision. La Syrie n'a plus la même attitude que du temps de Jonas. Ils ont oublié leur repentance. Ils sont devenus plus puissants. Ils se croient invincibles et hors de portée de Dieu. Et nous en avons une preuve. Peut-être vous souvenez-vous du Rabshaké qui criait ces paroles devant Jérusalem. Je vais vous les lire dans 2 Rois 18, verset 33. Il est dit ceci. Les dieux des nations ont-ils vraiment délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, de Héna et de Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux des pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Si la destruction de l'armée de Sanchérib, qui était le commanditeur de ce message, par l'ange de l'Éternel qui a exterminé 185 000 soldats assyriens en une nuit, était déjà une réponse de Dieu, Nahum écrit le jugement que Dieu va accomplir et qui s'est accompli en 612 avant Jésus-Christ lors de la chute de Ninive et de la prise de pouvoir des Babyloniens. L'Assyrie n'existait plus. Ninive, cette capitale immense, a été complètement oubliée et enterrée pendant des centaines d'années. Et ce n'est qu'au 19e siècle que des archéologues ont retrouvé le lieu où était Ninive, proche de Mossoul, la deuxième plus grande ville d'Irak. Le début du livre de Nahum nous présente Dieu. Et ce sera notre premier point, qui s'intitule « Dieu se présente ». Ensuite, nous allons réfléchir à une question en lien avec la signification du nom de Nahum. Nahum signifie en fait « consolation ». Y a-t-il une consolation ici? Et pour terminer, en troisième partie, nous réfléchirons à deux enseignements que j'aimerais encore souligner. J'ai simplement nommé ce point « notre réaction ». Notre réaction. Donc, commençons par les sept premiers versets de Nahum que je vous invite à garder ouverts devant vous. Et qui, je l'espère, pour la plupart, vous avez pu le lire avant, et puis jamais vous pouvez le relire après. Ces 47 versets, c'était pas très long cette fois-ci. Dieu se présente, et je soulignerai trois éléments, trois caractéristiques présentées de Dieu ici dans ce texte. La première se trouve dans les versets 1, 2 et 3a. Je les relis. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde sa rigueur envers ses ennemis. Et l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse certes pas impuni. En fait, la jalousie et la vengeance de l'Éternel sont très souvent mal comprises. Parce que nous considérons la jalousie et la vengeance avec le regard déformé par le péché, alors qu'il n'y a aucun péché en Dieu. Il est pur, il est saint, il est parfait. En fait, la jalousie de Dieu indique un zèle total pour le bien et pour sa gloire. La jalousie de Dieu indique un zèle total pour le bien et pour sa gloire. Alors certains me diront, ouais, mais bon, il est un peu centré sur lui-même, Dieu. Ben, c'est normal. Parce que rien n'est au-dessus de lui. Rien. Il est la source de toute vie et de tout bien. Voilà pourquoi tout est centré sur lui. Et nous ne sommes pas appelés à vivre la jalousie de Dieu de la même manière, en nous mettant à sa place. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes appelés à être zélés pour le bien selon Dieu. Et nous sommes appelés à rechercher sa gloire. Deuxièmement, la vengeance de Dieu est en lien avec sa justice et sa fidélité. La vengeance de Dieu est en lien avec sa justice et sa fidélité qui exige une punition du mal. La vengeance de Dieu, c'est le châtiment du coupable. La vengeance de Dieu, c'est le châtiment du coupable. C'est pas un règlement de compte réactif. C'est pas ça, la vengeance.
Romains nous dit ce que nous devons faire avec notre vengeance. Romains 12, verset 9 nous dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés,
mais laissez la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » En fait, Dieu est inflexible face à la méchanceté. Dieu est inflexible face à la méchanceté, il va la punir. Et le seul moyen, la seule façon de ne pas subir ce jugement, si vous avez une fois été méchant, c'est que quelqu'un de parfait, qui ne mérite aucunement ce châtiment, soit puni à votre place. Et si Jésus est allé à la croix pour payer le prix de nos fautes, c'est parce que lui aussi était totalement inflexible face au péché. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à la croix. Il était totalement inflexible face au péché, même si c'est vrai, cela le répugnait au plus haut point. Nous le voyons dans le jardin de Gethsémani, par exemple. Et l'inflexibilité de Dieu face au mal nous permet de comprendre qu'il jugera toujours le méchant. C'est pourquoi l'Assyrie, qui a agi avec terreur, sera jugée. Voilà pourquoi Nahum présente Dieu de cette manière-là, ici. Mais il ne suffit pas qu'il soit inflexible, il faut aussi qu'il soit capable d'exercer son jugement. Parce qu'à l'époque, les habitants de Ninive avaient construit une ville imprenable, avec des murailles si épaisses que plusieurs chars pouvaient se croiser en haut de la muraille. La ville était entourée d'eau. Et pourvu d'ailleurs d'eau à l'intérieur avec des aqueducs qui ont été construits pour un très long siège. De plus, c'est une ville très ancienne. Est-ce que vous savez à quel moment dans la Bible on parle de Ninive pour la première fois? Dans Genèse 10, exactement. Dans Genèse 10, et c'est Nimrod qui l'a construit. C'est une ville qui, en fait, a toujours existé quelque part. Imprenable. Indétruisible. Mais l'Éternel est puissant. Relisons Nahum 1, verset 3 à 6, qui nous donne un autre aspect de l'Éternel que Nahum souligne. Donc l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse certes pas impuni. L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon, dans la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel dépérissent, le fleuve du Liban dépérit, la fleur du Liban, pardon, dépérit. Il fait trembler les montagnes, et les collines vacillent, la terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera à son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, il brise les rochers. Ici, Nahum utilise la façon poétique de présenter tout cela. Il rappelle le passage de la mer des joncs, du Jourdain. On peut même penser au feu du mont Carmel, quand on pense au Carmel, à la présence manifestée de Dieu au Sinaï, où la montagne tremblait. Sans parler que Dieu peut ouvrir la terre et engloutir ceux qui ne veulent pas vivre selon lui, les récalcitrants, ou qu'il peut faire tomber les murailles. Nahum décrit ici la puissance de Dieu. Dieu est souverain créateur de toutes choses. Et Ésaïe, le contemporain de Nahum, dit même que les nations, c'est pas facile, c'est un terme comme ça, mais les nations c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de nations. Les nations sont pour lui comme de la poussière. Vous avez une fois déjà donné cette illustration, quand vous allez au magasin, à la Migros, à la Coop, ou autre, et que vous prenez vos fruits et que vous allez les peser. C'est déjà regardé, j'ai vu très peu de personnes souffler pour enlever la poussière qui rajoutait du poids aux fruits. Eh bien, vous vous rappellerez la prochaine fois que cette poussière-là, c'est comme ça que Dieu voit les nations. Personne ne peut tenir contre l'ardente colère de Dieu. Aucun empire, le plus grand soit-il, n'a la force de se mesurer à la puissance de Dieu. Personne ne peut tenir contre l'ardente colère de Dieu. Aucun empire, le plus grand soit-il, n'a la force de se mesurer à la puissance de Dieu. Plus tard, l'histoire de Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de du plus grand empire qui ait jamais existé, si nous nous référons à la statue d'or dans Daniel, Nebuchadnezzar a voulu se mettre à la place de Dieu. Et qu'est-il arrivé? Il est devenu fou. Et en fait, au point d'agir comme des animaux, comme un animal, jusqu'au moment où ils reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui domine dans tout l'univers. Et à ce moment-là, il redevient. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et Jésus est Dieu. Et un exemple. Jésus, face à la cohorte venue l'arrêter, n'a dit qu'une parole et ils sont tombés. Vous savez, s'il s'est laissé clouer sur la croix, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la puissance d'y échapper. C'est plutôt parce qu'il avait la puissance de vaincre le mal sur cette croix. Jésus ne s'est pas laissé clouer sur la croix parce qu'il n'avait pas la puissance d'y échapper. C'est plutôt parce qu'il avait la puissance de vaincre le mal sur cette croix infâme. Si Dieu est inflexible face au mal, il a la puissance d'accomplir son jugement. Et cela devrait suffire à Nahum pour maintenant commencer à expliquer le jugement de Dieu sur les nations mauvaises. Il a posé le décor. Mais il présente une troisième caractéristique de Dieu. Verset 7. Il parle de sa bonté. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Et en fait, les Assyriens ont vécu cette bonté. Les Assyriens ont vécu cette bonté du temps de Jonas. Du temps de Jonas, ils ont pu goûter à sa miséricorde, au refuge qu'il était pour ceux qui se repentent. Les Assyriens ont vécu cette bonté du temps de Jonas. Ils ont pu goûter à sa miséricorde et au refuge qu'il était pour ceux qui se repentent. Les Assyriens ne peuvent pas dire que Dieu est méchant, qu'il les punit sur un coup de tête sans les avoir avertis. Non, pendant 100 ans, ils pouvaient revenir à cette repentance unique et impressionnante où même les animaux avaient participé à ce moment d'humiliation devant Dieu. Dieu est bon. Et c'est parce qu'il est bon qu'il ôte le mal. Dieu est bon et c'est parce qu'il est bon qu'il ôte le mal. C'est parce que Dieu aime qu'il envoie son Fils unique pour mourir sur une croix, pour payer pour moi. C'est sa bonté qui s'est manifestée dans notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu est présenté. Nous comprenons maintenant qu'il est inflexible face au mal, qu'il est tout-puissant pour agir selon sa volonté, que rien ne peut l'arrêter, et qu'il est bon pour ceux qui se réfugient en lui. Le lecteur est prêt maintenant à lire le jugement annoncé qui va certainement arriver. Et Dieu a fait écrire ce jugement à son prophète avant la chute de la Syrie. N'en déplaise à Béro. Pourquoi est-ce qu'il l'a écrit avant? C'est pour que son peuple comprenne que ce n'était pas par hasard. C'est pas par hasard que tout à coup la Syrie s'est effondrée. C'était un jugement de Dieu. Et c'est là que nous arrivons au nom de Nahum. Nahum signifie donc qui console, qui a compassion. Est-ce un hasard? Cette annonce de jugement pourrait-il être une consolation? Une consolation? C'est notre deuxième point. C'est vrai que j'aime rappeler que l'annonce du jugement est un appel à la repentance. Non, vous le savez ça, hein? Quand on voit une annonce de jugement dans la Bible, c'est un appel à la repentance. Et ça reste toujours le cas, même ici. Même les Assyriens ont pu goûter à cette réalité du temps de Jonas. Mais il y a aussi un autre aspect du jugement dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé et qui n'est pas très populaire. Lorsque Dieu applique son jugement sur le méchant et qu'il élimine le mal, c'est une consolation pour ceux qui sont fidèles. Lorsque Dieu applique son jugement sur les méchants et qu'il élimine le mal, c'est une consolation pour ceux qui sont fidèles.
Regardez dans Nahum, au chapitre 2, verset 1, ou bien 15, chapitre 1, ça dépend de vos versions. Il est écrit « Voici sur les montagnes les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accueille tes vœux, car le vaurien ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement retranché. » Alors si vous avez lu Nahum avant de venir aujourd'hui,
c'est quasiment que du jugement. Et voilà qu'il est dit « Bonne nouvelle ! Il y a une fête à célébrer, des vœux à accomplir. » Cela annonce une délivrance. Le vaurien ne viendra plus. Le terroriste est éradiqué. Le mal est vaincu.
C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
Et Nahum prend le temps d'expliquer sous forme d'images saisissantes et bien agencées l'œuvre de l'Éternel des armées, l'œuvre de destruction de Dieu. Le prophète prend soin de bien nous faire comprendre ce que Dieu est en train de détruire. Il détruit les ennemis de l'Éternel. Il détruit ceux qui méditent contre l'Éternel. Souvenez le Rabchaké, là. Il se moquait de lui. Pourtant, il savait que
Ninive s'était repenti du port de Joas.
Dieu détruit ceux qui se confient dans leurs idoles. Il détruit ceux qui agissent par la terreur, comme les lions, qui rugissent après avoir détruit leur proie. Qui détruit ceux qui sont sanguinaires, remplis de mensonges et pleins de violence. Qui détruit ceux qui pratiquent la prostitution et les sortilèges. Détruit ceux qui agissent avec une méchanceté sans interruption. Ce n'est pas un manque de pitié ou une colère soudaine. Comme je l'ai déjà répété, 100 ans avant Jonas avait annoncé le jugement. La repentance avait démontré le moyen de détourner la juste colère de Dieu. Mais maintenant, les Assyriens ne se repentent plus et agissent avec une cruauté sans interruption.
Je vous fais grâce de toutes les descriptions qu'on peut trouver sur leur cruauté.
Et la destruction totale est également bien imagée de Nahum, amène un baume de consolation à ceux qui ont subi la terreur de cet empire qui a rejeté le souverain du monde. Oui, nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Oui, nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à implorer la grâce de Dieu pour leur impotence. Le message de Nahum ne change pas ça. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à prier pour eux et à implorer la grâce pour leur repentance. Mais si les ennemis de Dieu ne se repentent pas, nous pourrons légitimement demander le jugement de Dieu et leur destruction de conscience. Mais si les ennemis de Dieu ne se repentent pas, et je dis bien les ennemis de Dieu, comme mon voisin qui m'embête, ne se repentent pas, nous pourrons légitimement demander le jugement de Dieu et leur destruction nous console. C'est pas notre justice que nous cherchons, c'est la gloire de Dieu qui est bafouée par ceux qui ne veulent pas se repentir et s'entêtent dans le mal. Et lorsque le méchant est condamné, c'est une consolation, il y a une justice. On ne peut pas impunément mal agir et n'avoir aucune conséquence. Et Dieu est présenté ici dans Nahum sous l'aspect d'un guerrier qui va éradiquer le méchant. Il n'offre aucun soulagement au méchant non repentant, mais soulage ainsi le fidèle outragé. Vous savez, les psaumes annonçaient un guerrier qui viendrait délivrer.
Je vous lis le texte dans les psaumes, psaume 45, verset 3 à 7. Il dit ceci.
Tu es le plus beau des fils d'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Saint ton épée à ton côté, vaillant guerrier, ton éclat et ta splendeur, oui ta splendeur. Élance, monte sur ton char pour la cause de la vérité, de l'humilité, de la justice. Que ta droite te montre des exploits formidables. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, subsistera toujours et à perpétuité, le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Un guerrier est annoncé. Ou encore dans le psaume 72, il fera droit aux malheureux du peuple. il sauvera les fils du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Un peu plus loin, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre, il sauvera la vie des pauvres, il rachètera leur vie de la fraude et de la violence, et leur sort aura du prix à ses yeux. Alors si Dieu, ici dans cet exemple de Nahum, mène une guerre contre le terrible empire assyrien dans Nahum, Jésus-Christ, qui est ce guerrier annoncé par les psaumes, combat contre l'empire de Satan. Et Colossiens le dit très clairement, hein, Colossiens 2.15, il est dit, alors je prends juste ce texte pour relire le contexte, il, donc Jésus-Christ, a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux sur la croix. Voilà notre guerrier. C'est Christ. Le fait que Christ a triomphé du mal à la croix devrait être une immense consolation pour nous. Vous savez, notre société nous pousse à avoir compassion du méchant et à dédaigner celui qui est fidèle à Dieu. Dieu agit inversement.
Pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu qui inverse pour que nous comprenions?
Dieu agit inversement, et lors de ce retour en gloire, Jésus, qui a déjà triomphé du mal, va détruire son empire, alors en place, qui porte le nom de symbolique de Babylone. Apocalypse 14, 17 à 19, nous le décrit. Voici ce qui est dit dans Apocalypse 18, 20. Réjouis-toi sur elle, ciel, et vous aussi les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant.
Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta à la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et Apocalypse 19, 11 présente Jésus-Christ qui vient détruire la bête et tous ceux qui se sont ligués contre lui.
Puis je vis du ciel, le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et si vous continuez dans tout le chapitre, vous voyez ce combat. Le jugement final, le grand jour de l'Éternel, où le Christ détruira tous les méchants qui n'auront pas voulu se repentir, ce sera un jour de consolation pour les fidèles. Et il est juste et bon d'aspirer à cela, sans oublier que nous prierons jusqu'au bout pour nos ennemis.
Nous n'aspirons pas à ce que nos ennemis soient perdus. Dieu ne veut pas que le méchant meure.
Mais lorsque le jugement est là, c'est juste qu'il soit jugé. Et nous devons aspirer à ce que Dieu juge et éradique le mal et le méchant. Et j'aimerais terminer, comme annoncé au début, par deux enseignements qui m'ont parlé dans ce livre de Nahum. J'intitule ça « Notre réaction ». Et le premier est en lien avec la fin du livre. Tout à la fin. La particularité de ce livre, c'est qu'il se termine par une question. Et en fait, il n'y a qu'un seul autre prophète qui se termine aussi par une question. Savez-vous lequel? Alors, il y a Nahum, c'en est un, et le deuxième, c'est Jonas. Et ce n'est pas un hasard. Dans le livre de Jonas, la dernière question indiquait la compassion de Dieu pour un peuple qui se repent. C'était les Assyriens. Il disait à Jonas, oh, mais attends, ton vicin, là, tu n'es pas content, mais dis-moi, tu ne prendrais pas soin de ce peuple? Alors que Nahum se termine par une question indiquant que la méchanceté sans repentance amène au jugement. Hein, sur qui ta méchanceté ne passerait-elle pas sans trêve? Sans repentance, c'est le jugement. Et c'est ce même peuple, les Assyriens, qui est concerné. Vous savez, ce n'est pas parce que Ninive s'est repentie une fois il y a 100 ans qu'elle sera épargnée.
ce n'est pas parce que tu t'es repenti une fois il y a 10 ans que tu seras épargné. La repentance qui sauve est une repentance continuelle. Comme le mal qui condamne est un mal continuel sans repentance. La question que nous pouvons donc nous poser, c'est: est-ce que la repentance est une façon de vivre pour moi, pour toi? Est-ce que la repentance est une façon de vivre pour nous? Quand t'es-tu repenti pour la dernière fois? Bien sûr, la réponse est très facile. Bien sûr! Quand t'es-tu repenti pour la dernière fois? Le deuxième enseignement, et dernier enseignement en lien avec Nahum 1, verset 7, où il était dit: « L'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. » Sur 47 versets de Nahum, 39 parlent de jugement. Et c'est le même Dieu dont il est question dans Nahum 1, 7. Comment comprendre cela? J'aimerais vous donner une illustration qui, je l'espère, nous aidera à comprendre. Alors, si vous avez déjà été en montagne, vous allez comprendre, puis sinon, faut essayer d'imaginer. Le meilleur refuge en montagne lors de chute de pierre, ce n'est pas s'éloigner de la montagne qui crache ses pierres, c'est s'y coller en s'abritant sous un rocher. Hein? Donc, le meilleur refuge en montagne lors de la chute de pierre, c'est pas s'éloigner de la montagne qui crache ses pierres, c'est s'y coller en s'abritant sous un rocher. Eh bien, de même, face au jugement de Dieu, notre meilleur refuge n'est pas de chercher à fuir cette montagne qui crache ses pierres de jugement, si vous voulez. D'ailleurs, c'est pas possible, lisez le psaume 139. Mais c'est se plaquer à lui sous le rocher de Christ. C'est là notre refuge. Vous comprenez? Donc, face au jugement de Dieu, notre meilleur refuge, c'est pas de chercher à fuir ce Dieu. Cette montagne qui crache ses pierres de jugement, si vous voulez. C'est impossible, mais c'est se plaquer à lui sous le rocher de Christ. C'est là notre refuge. Donc lorsque nous comprenons, lorsque l'Esprit Saint agit dans nos cœurs et nous convainc de jugement, ne fuyons pas. C'est la meilleure manière d'être écrasé. Mais réfugions-nous vers lui sous la protection de Christ, qui détourne la juste colère de Dieu par son sacrifice parfait qu'il a donné à notre place. Et nous pourrons chanter avec le psalmiste: je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Notre vile âme humaine est aussi méchante et tordue que Ninive. Notre vile âme humaine est aussi tordue et méchante que Ninive. Les diabolistes sont actifs dans les rues de nos pensées, même s'ils sont soigneusement cachés dans des ruelles étroites. Nous méritons le même jugement. Vivons donc la repentance sans trêve, et cherchons refuge en Christ, et nous serons sauvés. Et nous serons sauvés. Quelle consolation, quelle joie, le jour où plus aucun diaboliste ne pourra trouver place dans la moindre ruelle de nos pensées. Ah, ça, moi, je me réjouis. Quelle consolation! Et ce sera l'œuvre de ce Dieu jaloux et vengeur, qui écartera tout mal et tout méchant. En conclusion de ce livre de Nahum, qui peut paraître sombre au premier abord, rappelons-nous que Dieu est inflexible face au mal, puissant et bon. Rappelons-nous que la destruction du méchant entêté dans le mal est une consolation. Et rappelons-nous que la repentance n'est pas un acte ponctuel, mais une façon de vivre proche de Dieu, du Dieu saint, où nous trouvons notre refuge en Christ.
Jésus-Christ a été inflexible face au mal. Il a été assez puissant pour vaincre les puissances du mal. Et dans sa bonté, il nous offre un refuge au pied de sa croix. Mettons donc autant de zèle en réponse à cette œuvre de libération pour combattre, enlever tout mal dans notre vile âme humaine en laissant régner celui qui vient avec son cheval blanc, consolé par la destruction du mal. Que le Seigneur nous donne cette grâce de saisir son évangile. Nous avons prié.
Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. C'est vrai que le livre de Nahum ne serait pas le premier livre que j'irai lire, mais Seigneur, nous voyons que ce livre nous conduit vers toi, nous permet de comprendre que tu es un Dieu saint, que tu ne te détournes pas du mal, que tu le juges. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que nous puissions le saisir de manière très profonde, afin que nous comprenions que tu es un Dieu saint, tu es un Dieu qui n'a pas changé, qui est toujours aussi saint aujourd'hui. Tu es ce Dieu qui agit contre le mal. Et Seigneur, nous te remercions parce que nous avons déjà des éléments dans ce prophète qui nous parle de refuge. Et nous avons la venue de Christ, et cette illumination que tu nous donnes par ton esprit avec le Nouveau Testament qui nous explique que Christ est celui qui prend le jugement sur lui de ceux qui se repentent. C'est vrai, Seigneur, aucun mal ne sera épargné. Mais Christ a payé pour ceux qui se repentent. Permets, Seigneur, que nous puissions saisir cette notion de jugement qui est si importante, qui est vraie et qui va encore s'accomplir de manière puissante devant tous, même ceux qui n'y croient pas. Donne-nous, Seigneur, cette audace d'annoncer l'Évangile pour que chacun comprenne que tu n'es pas un Dieu qui veut la destruction. Tu es un Dieu qui est venu vivre dans cette situation dramatique, pervertie par le péché, pour que nous puissions en être libérés. Eh bien, sois loué et béni et permets vraiment que ta parole s'imprègne en nous et que nous ayons une façon de vivre qui soit celle qui vient vers notre refuge qu'est Jésus-Christ chaque jour. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.